Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons revenir à ce passage en Romains chapitre 3, les versets 21 à 26. Romains chapitre 3, les versets 21 à 26. L'apôtre Paul donc écrit ceci: Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Vous connaissez sans doute les devises qui résument les vérités qui ont été redécouvertes, les vérités de l'Évangile redécouvertes au temps de la Réforme. Le salut est par la foi seule, en Christ, en Jésus-Christ seul, et par la grâce de Dieu seul, et pour la gloire de Dieu seul. C'est un résumé de l'Évangile, c'est un résumé de ces versets. La dernière fois, on a mis l'accent sur le fait que le salut est par la foi seule. Et aujourd'hui, nous voulons voir que le salut est en Christ seul. Je ne sais pas si vous arrivez, si vous faites ce que je fais parfois quand on lit un livre, qu'on commence un livre, on va à la fin pour voir la conclusion. Et ensuite, on peut suivre le développement. Quand c'est un livre d'énigmes, si on va à la fin pour chercher les réponses, ça s'appelle de la triche. Mais pour l'apôtre Paul, parfois, c'est intéressant d'aller voir les conclusions. Et cela nous aide à comprendre où l'apôtre Paul veut nous mener. Et dans ce passage, si l'on va à la fin de ce que nous venons de lire, au verset 26, on voit là où Paul veut nous amener. Il nous dit au verset 26 que Dieu est à la fois qu'il est juste, mais aussi celui qui justifie, celui qui est à la fois en Jésus. Et voilà la gloire de l'Évangile. Dieu est juste, parfaitement juste, mais en même temps, il peut justifier celui qui est à la foi en Jésus. Et si on se rappelle de l'argumentation de l'apôtre Paul dans le chapitre 1, verset 18, jusqu'au verset 20 du chapitre 3, on peut être perplexe parce que Paul n'a cessé de souligner, il a passé tout son temps à nous rappeler, à nous démontrer que personne n'est juste devant Dieu, que personne de lui-même ne peut être justifié devant Dieu. Rappelez-vous ce qu'il dit au chapitre 3 et au verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors comment ce grand problème de l'humanité, ce problème de l'univers, que l'homme ne peut pas se tenir devant Dieu et être justifié, que nous sommes coupables devant Dieu, que nous sommes sous sa condamnation, comment l'apôtre Paul peut-il maintenant dire que Dieu peut être à la fois juste et en même temps celui qui justifie celui qui a la foi en Jésus? Et la réponse, c'est dans les deux derniers mots. En Jésus. En Jésus. Nous pouvons être justifiés à cause de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus a fait. Et Paul nous amène à ce point dans les versets précédents. Il nous dit, verset 22, que la justice de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ. Au verset 24, nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 26, nous sommes justifiés quand nous avons cette foi en Christ. Et c'est le cœur de l'Évangile. Et pour décrire ces privilèges, pour décrire tout ce que nous avons en Christ, tout ce que Dieu nous donne en Christ, Paul utilise trois mots. Trois mots qui sont parmi les plus importants de la parole de Dieu. Ces mots sont, au verset 24, la justification. Toujours au verset 24, la rédemption. Et au verset 26, la propitiation. Paul nous dit que la justification est le fruit, c'est l'effet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le moyen de la justification, c'est la rédemption. La cause de la justification, c'est la propitiation. Nous sommes justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour nous comme victime propitiatoire. Ou pour le dire dans l'autre sens, pour voir la logique dans le raisonnement de l'apôtre Paul, d'abord, Dieu nous donne le Seigneur Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Ensuite, à cause de cela, nous faisons l'expérience de la rédemption de nos péchés. Et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes amenés à être justifiés devant Dieu. Et on va essayer de comprendre donc la logique de l'Évangile et de pouvoir, en comprenant cela, nous réjouir encore davantage et de pouvoir véritablement nous poser et nous appuyer sur cette réalité. J'ai été justifié. Dieu m'a déclaré juste. Ces trois mots nous emmènent dans trois mondes différents. Le mot propitiation nous emmène dans le monde du temple, du sacrifice. Le mot rédemption nous amène dans le monde du marché aux esclaves et de la délivrance. Et le terme justification nous amène dans le monde du tribunal, de l'acquittement d'un crime qui nous a été reproché. Donc on va voir ces trois mots ce matin. Tout d'abord, le salut nous appartient à cause de la propitiation qui est en Jésus-Christ. Ce terme, comme j'ai dit, vient du temple, vient du sacrifice. Verset 25, c'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Il est intéressant de souligner que ce terme que l'apôtre Paul utilise ici est utilisé une autre fois dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 5. Et ce verset nous dit ceci, « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Le propitiatoire était ce couvercle qui recouvrait l'arche de l'Alliance. Et à chaque extrémité, un ange regardait, était penché sur ce propitiatoire et vous connaissez, vous savez, l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait une fois dans l'année dans ce lieu très saint, là où était l'Arche de l'Alliance. Et il aspergeait du sang de l'agneau qui avait été immolé pour les péchés du peuple. Il aspergeait ce sang sur ce couvercle, sur ce propitiatoire. C'était le seul endroit au monde où le peuple de Dieu croyait que Dieu pouvait être rempli de grâce et de miséricorde et qu'il pouvait pardonner les péchés. Parce qu'il était, il y avait ce propitiatoire. Et Paul utilise ce langage, donc venu du temple, pour expliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir pour nous sur la croix. Il a accompli la propitiation. Il est pour nous cette victime propitiatoire. La croix est devenue le propitiatoire sur lequel le Seigneur Jésus-Christ a versé lui-même son propre sang afin de faire propitiation, afin qu'il y ait cette propitiation. Bien sûr, la question à 1000 euros, c'est que veut dire propitiation? On peut utiliser une image. Si un ami est en colère contre nous, on va se dire qu'on doit faire quelque chose pour apaiser cette colère, pour pacifier cette relation. On doit faire quelque chose au sujet de la raison de sa colère, pourquoi il est en colère contre nous. Quelque chose doit être fait au sujet de la raison pour laquelle il est en colère contre nous. Et c'est cette image qu'on a ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il est venu faire à la croix. Il est venu pacifier cette relation avec Dieu. Il est venu détourner la colère de Dieu pour qu'elle ne soit plus sur nous, mais qu'elle soit déversée sur lui. Que la raison de la colère, c'est-à-dire de la colère de Dieu, c'est-à-dire nos péchés, ne soit plus sur nous, mais qu'il les prenne sur lui. Et il subit le châtiment. Et il réalise, il pacifie cette relation entre Dieu et nous. En versant son sang sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a subi le jugement juste que nous méritions. Il a subi la colère de Dieu que nos péchés méritaient. Mais en faisant cela, il a apaisé cette relation. Il a rendu cette propitiation. Dieu est propice, il nous est favorable. Parce qu'il n'y a plus, nos péchés ont été placés sur le Seigneur Jésus-Christ. Christ a subi la colère à notre place. Il n'y a plus de raison que Dieu soit en colère avec celui qui est en Jésus-Christ. Parce que Christ a fait le nécessaire. Il a détourné, il a satisfait les exigences de Dieu. Il a détourné la colère de Dieu en la prenant sur lui-même. Et elle ne repose plus sur le croyant. Malheureusement, c'est un enseignement qui n'est pas très populaire aujourd'hui et encore moins dans l'Église de nos jours, parce que cela veut dire que Dieu est en colère. Et l'homme naturel, et pire, l'homme religieux, est offensé par cette pensée que Dieu puisse être en colère contre lui. Et il dit non, moi je suis bien content d'un petit Jésus ou d'un Jésus qui fait des miracles, mais ne me parlez pas d'un Dieu en colère. Et pourtant la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que Dieu est en colère, il est pur, il est saint, il ne peut pas voir le mal. Mais la gloire de l'Évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a donné son Fils comme victime propitiatoire. Paul le dira d'une autre manière dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, selon car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Nos péchés sont mis sur le compte du Seigneur Jésus-Christ. Notre victime, la victime propitiatoire, le substitut, il fait la propitiation. Ce qui est une offense, c'est que le Seigneur Jésus-Christ doit mourir sur la croix pour nos péchés. Cela révèle que nos péchés sont une offense pour Dieu. Mais cela révèle aussi la grandeur infinie de la grâce de Dieu, où le Père et le Fils s'accordent dans cette alliance pour régler ce problème. L'humanité est prisonnière du péché, condamnée par la loi, incapable en elle-même de se justifier devant Dieu, incapable par quoi que ce soit de venir se présenter et d'être déclaré juste devant Dieu. L'homme est coupable. Mais le Père et le Fils entrent dans cet accord même si cela signifie souffrir l'agonie de la croix, même si cela signifie que le Fils va s'écrier sur la croix, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils va aller jusqu'à la croix pour être cette victime propitiatoire, pour que apaiser, pour détourner la colère, pour que cette colère ne soit plus sur ceux qui croient sur l'homme, mais qu'elle soit détournée sur le Seigneur Jésus-Christ en tant que substitut, en tant que victime propitiatoire. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu viens t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois pour moi se donne sur la croix. La propitiation se fait par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et par ce sacrifice, parce que la colère de Dieu est déversée sur le Fils, celui qui est en Jésus, celui qui est uni à Christ par la foi, a la paix, connaît la paix avec Dieu. La colère de Dieu a été détournée, elle a été déversée sur quelqu'un d'autre, sur un substitut. À la fin, au jugement dernier, la colère de Dieu sera déversée sur tous ceux qui sont incrédules, tous ceux qui se présenteront devant Dieu avec leur propre justice. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ voient que cette colère de Dieu contre le péché a été déversée sur un substitut, sur le Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donné comme victime propitiatoire. Il n'y a plus rien donc qui oppose, qui nous sépare. Il y a cette paix, cette relation, cette intimité avec Dieu qui est établie par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, dira l'apôtre Paul un peu plus loin, nous avons la paix avec Dieu. Et encore plus loin, en Romains 8, il dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ est cette victime propitiatoire. Mais avec la propitiation, il y a une deuxième chose, c'est le deuxième point, il y a la rédemption par son sang. Et là, nous passons du monde du temple et du sacrifice à celui du marché aux esclaves. Ou pour les croyants de l'Ancien Testament, c'était même la délivrance de l'esclavage d'Israël, d'Égypte. On parle ici donc de délivrance, délivrance du péché. En Jean 8, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et c'est ce que nous sommes par nature. Ce que Paul veut que nous comprenions, c'est que dans l'Évangile, il n'y a pas seulement cette propitiation de la colère de Dieu, afin que je sache que je suis en paix avec Dieu. Mais il y a aussi cette puissance de rédemption, de délivrance en Jésus-Christ pour me libérer de l'esclavage du péché. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu sur le marché des esclaves et il a payé le prix. Le prix de la rançon, c'est son sang qui est versé à la croix. C'est sa propre personne, sa propre vie qu'il donne et il nous délivre de l'esclavage du péché. Il est venu comme le rédempteur, le serviteur souffrant. Il est allé sur la croix, il a pris sur lui les péchés de son peuple, les péchés de ceux qui croient et il a payé la rançon. Il a libéré son peuple de l'esclavage du péché. Ce n'est pas seulement une question d'avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience et d'avoir la paix avec Dieu, mais c'est aussi la délivrance de l'esclavage du péché. Et c'est un thème qui revient dans cette lettre, on va y revenir plus tard. Même quand le croyant se bat contre la présence du péché qui est là dans sa vie, il doit se rappeler que le péché ne règne pas. Le péché ne règne plus dans sa vie. Christ l'a délivré de l'esclavage du péché et lui a donné une vie nouvelle. Avec la rédemption et la propitiation, il y a troisièmement la justification. Si on revient à ce que nous avons vu dans les chapitres 1, verset 18, au chapitre 3, verset 20, Paul, comme j'ai dit, n'a cessé de nous amener devant le trône du jugement de Dieu pour que nous entendions dire ces paroles. Il n'y a point de juste, pas même un seul, que nous soyons des païens, que nous soyons ceux qui ont eu les privilèges, qui ont su certaines choses de la révélation de Dieu. Le constat est le même. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et un peu plus loin, il dit, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et heureusement que Paul ne s'arrête pas là. Il parle de la propitiation, il a parlé de la rédemption, il parle maintenant de justification. Et là, on passe du monde du temple à celui du marché aux esclaves, et maintenant à celui du tribunal, pour traiter la question de notre condamnation et du jugement de Dieu sur notre péché. Et on ne peut rien. On l'a déjà dit, mais on ne peut rien apporter à Dieu pour être justifié devant lui, pour être déclaré juste. Il n'y a rien en nous-mêmes. Il n'y a rien dans notre vie. Il n'y a aucune œuvre qui pourrait être la base sur laquelle Dieu me déclarerait juste. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai des responsabilités dans l'Église. Je ne suis pas sauvé parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de vivre pour sa gloire. Non. Je suis justifié, déclaré juste uniquement à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi sur la croix. Vous citez un autre cantique, le 241, « Ô Christ, éternel rocher ». La strophe, il dit, « Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé. Je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur ou je meurs. » Certaines personnes pensent qu'elles pourront se présenter devant Dieu et lui dire que Dieu doit les accepter parce qu'elles ont été aussi bonnes que les autres, qu'elles ont eu les meilleurs parents, qu'elles ont eu la meilleure éducation, qu'elles ont été dans la meilleure église. Non. Le seul moyen d'être déclaré juste, d'être justifié devant Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en lui, il les a revêtus de sa justice. Il leur donne de sa justice. Il y a une illustration de cela en Zacharie chapitre 3. Le souverain sacrificateur se présente devant l'ange de l'Éternel. Ses vêtements sont sales. Et Satan est là pour l'accuser. Comment est-ce qu'il peut se tenir devant la présence sainte de Dieu alors que ses vêtements sont sales? Et l'ange de l'Éternel répond, « Ôtez-lui les vêtements sales. » « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu? Est-ce que nous nous présentons devant Dieu avec notre propre justice, qui est une justice souillée, imparfaite? Est-ce que nous nous présentons devant Dieu avec la parfaite justice du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a obtenue en obéissant à tout ce que Dieu exigeait et en payant le prix pour nos péchés? Je terminerai par deux choses. La première, est-ce que l'on voit dans ces versets que ce que Jésus-Christ a accompli est tout suffisant? Notre problème, ce n'est pas que nous sommes par nature sous la colère de Dieu. Notre problème, ce n'est pas que nous sommes esclaves au péché. Notre problème, ce n'est pas que nous n'avons rien à présenter devant Dieu pour notre justification. Notre problème, ce sont ces trois raisons mises ensemble. La merveille de l'Évangile, c'est que Dieu a regardé, il a vu notre situation et il a pourvu en Jésus-Christ un Sauveur qui est tout suffisant pour mes besoins. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit en Hébreux 7, verset 25, que le Seigneur Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut sauver parfaitement. Nous avons tout en Christ. Et la deuxième chose, c'est que tout cela ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs. Par nature, nous avons tendance à regarder à nous-mêmes. Nous pensons qu'il y a en nous-mêmes quelque chose qui permettrait à Dieu de me déclarer juste. Et si on est honnête avec soi-même et surtout à la lumière de la parole de Dieu, on découvre en fait qu'il n'y a rien. Mais même parfois chez le croyant, il y a cette tendance à regarder à soi-même alors que nous avons tout. En Christ. Parfois nous sommes comme l'apôtre Pierre et nous détournons nos regards, nous ne regardons plus à Christ et nous coulons et nous ne pouvons plus avancer. La question à nous, pour nous ce matin donc est celle-ci, à qui regardons-nous? Où cherchons-nous les ressources pour vivre une vie juste devant Dieu? Où cherchons-nous les ressources pour être libérés de la culpabilité du péché? Du règne du péché. Il n'y a qu'une seule direction. Où porter nos regards? Nous avons tout en Jésus-Christ. Le salut est en Christ et en lui seul. Ne regardons pas ailleurs. Regardons à Christ et à lui seul, parce que lui seul peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.